VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Ghana, les premiers bulletins de vote dépouillés au scrutin présidentiel laissent prévoir ce jeudi un résultat particulièrement serré entre le président sortant John Dramani Mahama du Congrès national démocratique NDC et son rival historique Nana Akufo-Addo, leader du NPP, le nouveau parti patriotique. Selon la commission électorale, les résultats préliminaires de la présidentielle de mercredi dans 6 des 275 circonscriptions du pays donnent au président Mahama, qui brigue un second mandat, une très légère avance avec 62 930 voix contre 62 220 pour M. Akufo-Addo. Le point avec Azuma Compaoré.
Quelque 15 millions d'inscrits étaient appelés à élire leur prochain président pour un mandat de 4 ans, ainsi que leurs 275 députés. Au total, 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont une ex-première dame, Nana Akufo-Addo Aguiman Rawlings, épouse de l'ancien président Jerry Rawlings. Les deux principaux candidats s'étaient affrontés lors des élections de 2012 et le président Mahama avait remporté le scrutin de peu, avec 50,7% des voix contre 47,7% pour M. Akufo-Addo. Ce dernier avait contesté, en vain, les résultats devant la Cour constitutionnelle.
Nana Akufo-Addo se présente pour la troisième fois à la présidentielle pour le NPP. Selon les experts, le leader du NPP espère récupérer les voix des déçus du premier mandat de M. Mahama, notamment pour sa politique économique et les scandales de corruption de ces dernières années. La croissance économique du Ghana pour 2016 est estimée à 3,3%, la plus faible en 20 ans. Au Mali, reprise aujourd'hui à Sikasso du procès de Amadou Aya Sanogo, l'ex-chef de la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2012. Le point avec notre envoyé spécial à Sikasso, Kassim Traoré.
À la reprise de l'audience ce jeudi 8 décembre 2016, la Cour donnera son verdict sur les exceptions des avocats de la défense. Cette décision déterminera la suite du procès. Les avocats de la défense ont présenté une batterie d'exceptions.
Le dossier n'est pas en état d'être jugé. Les expertises ont été faites contrairement à la loi. Les témoins n'ont pas comparu.
Les avocats de la défense ont contesté la compétence de la Cour d'assises. Selon eux, elle ne peut pas juger cette affaire militaire. Des affirmations contredites par la partie civile. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes.
La loi pénale est d'interprétation très stricte. Ce qui n'est pas dit, on ne doit pas l'inventer.
La défense a aussi estimé que ses clients sont en détention illégale. À la question de savoir si la Cour ne prend pas en compte les exceptions de la défense, Maître Haruna Touré répond.
On avisera, on vous dira comment on va faire.
Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Gambie, que va-t-il advenir du président sortant gambien Yahya Jammeh après sa défaite? Une semaine après l'élection du 1er décembre, remportée par le candidat d'une coalition de l'opposition, Adama Barrow, plusieurs scénarios sont avancés. Yahya Jammeh, qui a accepté sa défaite à l'issue de la présidentielle après 22 ans au pouvoir, est accusé de graves violations des droits de l'homme par des ONG locales et étrangères. Écoutez l'avis d'Aliountine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Je pense aujourd'hui qu'il est de la responsabilité de l'Union africaine, l'ONU et de la CEDEAO de faire en sorte que la transition qui s'entame soit bien sécurisée, de faire tout pour que la Gambie ne soit pas déstabilisée. C'est le travail qu'il faut faire, mais je pense que Yahya Jammeh lui-même, pour que demain les gens soient prêts à pardonner, il faut effectivement qu'il rende compte. Voilà, la reddition des comptes, quand même, c'est quelque chose de très important pour la situation de la Gambie, pour ce que les gens ont souffert pendant 22 ans, pour ne plus recommencer. Et pour dire effectivement que c'est une nouvelle voie qui a été prise pour la Gambie.
Aliountine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, un nouveau dialogue s'ouvre à Kinshasa sous la médiation de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale catholique du Congo. Ces discussions mettront face à face, d'une part, la majorité au pouvoir et la frange minoritaire de l'opposition ayant pris part au premier dialogue facilité par le médiateur togolais Edm Kodjo, et d'autre part, le rassemblement formé par la grande majorité de l'opposition que dirige le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. L'heure est à la transmission des listes des délégués des différentes composantes de ce nouveau dialogue aux évêques catholiques. Des détails avec Gino Rima de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ces assises de trois jours vont se dérouler au siège de la conférence épiscopale à Kinshasa. Les différentes parties prenantes consultées par les évêques catholiques déposent les listes de leurs délégués à ce qu'on appelle négociation directe entre l'opposition et la majorité présidentielle. Les évêques ont souhaité 15 délégués pour la partie qui a pris part au dialogue de la cité de l'Union africaine et 15 autres pour ceux qui n'y ont pas pris part. Ces 15 délégués des non-signataires de l'accord de Kodjo devraient venir du rassemblement du Front pour le respect de la Constitution et de la société civile non signataire de l'accord. Les conclusions des négociations devraient être prêtes avant le 19 décembre prochain. Ces négociations directes débuteront ce week-end et porteront sur 6 points techniques contenus dans l'accord de la cité de l'Union africaine, tel que résumé par la CENCO. Depuis Kinshasa, Gino Rema, Top Congo pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la justice sud-africaine a refusé ce jeudi la libération sous condition de deux fermiers blancs poursuivis pour avoir tenté d'enfermer vivant un jeune noir dans un cercueil et avoir menacé de le brûler vif. Les deux accusés sont restés impassibles, tête basse, après cette décision, pendant que le public réuni dans la salle d'audience où se trouvait notamment la victime a applaudi le jugement. 22 ans après la chute officielle du régime d'apartheid, les tensions raciales restent vives en Afrique du Sud, où les inégalités entre la majorité noire et la minorité blanche restent énormes. Politique aux États-Unis maintenant, le Parti démocrate s'interroge sur son avenir après la débâcle électorale de novembre qui lui a ravi la Maison-Blanche tout en maintenant les républicains aux commandes du Congrès. Les précisions de Lionel Gaïma.
VOA Afrique en direct de Washington.
Dans le sillage de la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle face au républicain Donald Trump, les démocrates font leur examen des consciences, explique l'analyste John Fortier. Où le parti doit-il aller? Doit-il se tourner vers ses personnalités plus progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ou le sénateur Bernie Sanders du Vermont? Qui pousserait le parti plus à gauche ou dans la direction choisie par Hillary Clinton, c'est-à-dire plus au centre? Le sénateur Sanders semble impatient d'assumer un rôle clé dans ce processus, exhortant les démocrates à réexaminer leurs efforts en direction des électeurs de couches laborieuses. Ils sont des millions de personnes aujourd'hui, des gens de la classe ouvrière, de la classe moyenne, des gens de bas revenus vivant dans le désespoir. Le besoin de changement a été bien illustré par la tentative infructueuse du député Tim Ryan de l'Ohio de déboulonner Madame Nancy Pelosi de son poste de chef de la minorité démocrate à la Chambre de représentants. Je crois dans mon cœur, dit-il, que si nous comptons gagner en tant que démocrates, nous devons avoir un message économique ayant un impact dans tous les coins de ce pays. L'avenir du Parti démocrate est aussi au centre des préoccupations du président sortant Barack Obama. Il doit donc y avoir des valeurs clés, ne devant pas faire l'objet du débat. Et qui doivent être notre toile polaire. Mais nous devons prendre le temps de réfléchir sur la manière de nous organiser. De nombreux blancs de la classe ouvrière ont voté pour Donald Trump, souligne l'analyste conservateur Fred Barnes. Trump a accompli ce qu'à mon avis les républicains n'allaient peut-être jamais réussir, gagner la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin, la ceinture industrielle qui compte tant de membres de la classe ouvrière, dont un bon nombre. Au chômage. Les démocrates du Congrès devront donc décider après la cérémonie d'investiture présidentielle du 20 janvier sur quel front ils s'opposeront à Donald Trump et sur quels autres ils trouveront un terrain d'entente.
Conflit en Syrie, les forces du régime syrien appuyées par des combattants étrangers poursuivent ce jeudi leur progrès vers les derniers quartiers rebelles d'Alep, la grande métropole du Nord, dont la conquête totale représenterait un tournant dans la guerre, selon le président syrien Bachar al-Assad. Fort de ses succès militaires et des soutiens cruciaux russes et iraniens, le régime de Damas rejette les appels à un cessez-le-feu et veut coûte à coûte, coûte que coûte, s'emparer de l'ensemble de la deuxième ville du pays, une prise qui constituerait sa plus importante victoire depuis le début de la guerre civile en 2011. Les Russes et les Américains qui soutiennent eux l'opposition à M. Assad n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une issue à Alep après une énième rencontre. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. No time.